Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team. Je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport. La France entière attendait ça depuis des jours, des mois, voire même des années. Et je ne parle pas de l'avènement de Wembanyama, ni du biopic de Simone Veil, ni de la baisse du prix de l'essence. Non, Maxime. Je parle de quelque chose de beaucoup plus ambitieux et qui va changer nos vies à jamais. Il y aura un avant et il y aura un après. Je parle d'un bouquin comme on en publie qu'une fois par génération.
Ouais, j'espère pas.
Il y a eu l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne, Don Quichotte de Cervantes, 1984 d'Orwell, les essais de Montaigne, Ma vie pour une étoile d'Aimé Jacquet, et donc, depuis jeudi, depuis hier hein, finalement en fait, les grands récits de Laurent Verne et de Maxime Dupuis. Eh oui, Maxime Dupuis. Dans ce bouquin, il y a des morceaux de bravoure. Le Garden, c'est un concentré de l'électricité qui circule en courant continu dans les rues de la ville de Boue. Pouah. Les grands récits d'Eurosport retracent un siècle de destin pas comme les autres. Mais est-ce que la trajectoire la plus inattendue n'est pas celle de ce trublion du FC Stream Team à deux doigts de l'Académie française désormais? En tout cas, si vous voulez à la fois prendre une claque littéraire et si vous voulez aussi que Maxime Dupuis offre des jolis cadeaux à sa fille à Noël, vous savez ce qu'il vous reste à faire.
Ouais. Alors, plusieurs choses. Déjà, je ne savais pas que le prix de l'essence avait baissé.
Si, il a un
mais
peu
non, tu as une ristourne. Et surtout, il n'y a plus d'essence.
Là. Ah ouais, merde, mais j'ai pas de bagnole, moi. Ouais. J'ai pas de bagnole, je suis désolé. C'est Maxime qui va venir notre travail.
On a de nouveaux micros et Martin parle là-dedans comme s'il était minuit.
Oui, c'est
avec
vrai.
Une voix très posée, j'ai l'impression que ça a tout changé.
C'est vrai.
Et j'espère quand même que tu as apprécié la référence à la ville debout.
Alors, je ne l'ai pas la référence.
C'est quoi, Céline.
Ah
New
ouais,
York,
non,
la
mais
debout,
okay.
Voyage au bout de la nuit,
le
voilà.
Mec,
et je trouve que c'est vraiment ça.
Donc c'est vraiment ça, oui c'est vraiment ça. T'as écrit un bouquin,
non.
Tu te prends pour Céline.
Non.
Non. C'est ça, si, t'as écrit
non,
un
non,
bouquin.
Non, non, mais c'est la meilleure description qu'on puisse faire de New York,
okay.
La ville debout.
Okay. Voilà. T'as fini de te tripoter sur ce que t'écris toi-même ou pas?
J'ai bien aimé, en tout cas j'ai bien aimé que t'ailles fouiller dans ta littérature jeunesse de tes lectures de lycéen.
Ouais. C'est vrai, c'est tout mon programme de Cagne.
Bah oui.
Et j'espère que bientôt les grands récits feront partie du programme d'Hippocagne et de Cagne.
Ouais, je suis pas convaincu quand même.
Ouais, pourquoi pas en tout cas, si un jour je suis prof de Cagne ou d'Hippocagne, ça n'arrivera jamais, mais pourquoi pas. Voilà, je mettrai les grands récits.
Si on m'a dit que j'écrirais un livre.
Ouais, c'est vrai, comme tout arrive là.
tout arrive.
Bon, on a quand même une émission à faire, Maxime, un nouveau numéro du FC Stream Team. Mais bon, là, j'avoue que je suis impressionné.
Je te sens un peu engoncé avec les nouveaux micros, je te vois avec les mains dans les poches. D'habitude, t'es pas comme ça et moi, je suis un peu paumé là.
C'est vrai, alors on a des nouveaux micros. Si vous voulez les voir d'ailleurs, allez sur eurosport.fr, vous verrez que le setup a complètement changé. On était debout avec des micros sans fil. Là, maintenant, on est assis sur des petits tabourets de bar.
Là, bon, c'est l'after. Là, on va peut-être faire des émissions en live à minuit ou 1h du matin pour parler.
Bah, c'est
libre antenne.
Ouais. Ça nous permettrait de dire des choses qu'on ne se permet pas, Maxime.
Et qu'on aimerait pourtant dire.
Et qu'on aimerait pourtant dire parce qu'on se censure beaucoup pour le FC Stream Team.
Heureusement d'ailleurs.
Heureusement, surtout toi, parce que sinon ça partira un peu dans tous les sens. De quoi je parlais Oui, alors si vous voulez voir les nouveaux micros, évidemment, allez sur eurosport.fr parce que vous pouvez voir les vidéos de ce que vous entendez là maintenant. Et donc pour les podcasts, ouais.
C'est un autre Martin.
Mais quoi?
Il faudra lui fournir un casque là. Le casque. Mais le casque est avec une oreille découverte, tu vois, pour vraiment.
Ouais.
Voilà.
Bah là, je passe. Bah écoute, il y en a qui écrivent des bouquins, d'autres qui se prennent pour des journalistes radio. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça.
Non, c'est parti.
Là, c'est plus France Inter, moi, tu vois. C'est. Voilà, un petit peu.
On va démarrer.
On peut démarrer.
Bon, le podcast, déjà, vous pouvez le retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast, les bonnes et les mauvaises, comme d'habitude. Vous vous abonnez, vous avez le dernier numéro dans votre smartphone qui arrive. Vous avez une petite notification. et vous pouvez nous entendre avec nos nouveaux micros.
Avec nos micros, même, je dirais.
Mais de quoi va-t-on parler, Martin ? On va déjà parler de quelque chose qui est tombé ce matin au réveil. On ne savait pas qu'on allait en parler. Non. C'est la magie aussi du FC Stream Team.
Exactement. Soit dit au réveil, je ne savais pas de quoi on allait parler du tout.
Voilà, mais... c'est plutôt bien tombé.
Ouais, c'est plutôt bien tombé. C'est quelle place pour Franck Ribéry dans l'histoire du foot français ? Et pourquoi on parle de Franck Ribéry ? Bah parce qu'il a annoncé, pour lui, sa retraite définitive, pour le coup, hein, on ne parle pas de retraite internationale, puisqu'il a celle-ci, il l'a prise en 2014, mais sa retraite tout court. Donc on va se poser cette question, quelle place a Kaiser Franck dans l'histoire du foot français ? Ce sera notre premier sujet. J'allais lancer un jingle.
Mais les gestes de main, c'est fantastique. C'est peut-être mon émission préférée d'ores et déjà. Ça fait 6 ans qu'on fait cette émission. Là, c'est devenu tout nouveau grâce à un micro.
Ah bah grâce à un micro, ça change tout. Ensuite, Maxime, on parlera d'Erling Haaland.
On parlera d'Erling Haaland avec une question très simple. Alors, vous avez vu 14 buts en championnat, en 8 matchs, des triplés à l'appel, 3 de suite à domicile. Bah, est-ce qu'on est tombé sur un nouveau type d'attaquant ? Est-ce que Erling Haaland est unique en son genre ?
Et on terminera avec l'OM. Est-ce que Marseille peut tenir le rythme du Paris Saint-Germain ? Les deux clubs trustent les premières places depuis le début de saison. Marseille recevra Ajaccio. Paris ira à Reims. Si je ne dis pas de bêtises, ce sera samedi. Je le vois qui se marre. Et donc, on terminera cette émission avec l'Olympique de Marseille. Voilà, bah, à vous les studios.
J'avais dit qu'ils trustent, mais espérons qu'ils ne perdront pas leur sang-froid.
Oh là là.
Voilà, c'est pour les...
Ouais, c'est pour les...
Voilà, bon allez, on y va. Vendredi matin, la presse italienne a annoncé que Franck Ribéry allait prendre sa retraite. Franck Ribéry, 39 ans, 81 sélections en équipe de France. Le genou ne suit plus. Franck Ribéry va devenir ambassadeur de la Salernitana. On va se poser une question simple parce que c'est un des footballeurs les plus complexes et insaisissables de l'histoire du football français, du moins sur ces hauteurs-là. Quelle place pour Franck Ribéry dans l'histoire du football français ? C'est pas si évident, Martin.
Eh ben, je suis bien enquiquiné pour répondre à cette question parce qu'il y a deux pans. Il y a déjà son histoire en club et son histoire en sélection nationale. Pour sa stricte histoire en club, je placerai Franck Ribéry très, 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 très haut et peut-être même dans le top 5 du foot français, en compagnie d'Henry pour Arsenal, en compagnie de Platini pour la Juve, en compagnie même de Benzema pour le Real Madrid, parce qu'il faut bien se rendre compte de ce qu'il a fait pour le Bayern Munich. Bayern Munich, un des plus grands clubs de l'histoire, c'est sensationnel. C'est peut-être le meilleur joueur du Bayern Munich au 21e siècle, Maxime. Le 21e siècle qui a été prolifique pour le Bayern Munich, donc c'est dire la trace qu'il a laissée là-bas. Et c'est en ça que je le classerais très 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 haut. Après, et pour faire court et pour te donner rapidement la parole, y a l'équipe de France. Alors il a fait une finale de Coupe du Monde, ce n'est pas rien dans l'histoire des Bleus, parce que tout le monde n'en a pas fait, on pense notamment à Michel Platini ou à Coppa, que j'ai cité précédemment. Mais c'était au tout début et ça a presque trop bien démarré pour ce qui arrive ensuite. Et c'est la suite de cette carrière internationale qui pour moi l'empêche d'être dans le top 10 de l'histoire du foot français. Et c'est aussi sa relation complexe avec ce public français et l'absence de titre majeur en équipe de France qui l'empêchera d'être tout en haut, donc aux alentours de la 20e place, peut-être entre la 20 et la 15e. Mais il ne peut pas prétendre à être dans le top 10 pour moi, alors que il avait le talent et il avait la place aussi pour y figurer.
En tout cas, c'était bien parti pour, comme tu l'as dit, une finale de Coupe du Monde très jeune, ouais. 2006. Ça démarre, on ne peut mieux, parce qu'un coup de tête près, alors je ne parle pas du coup de tête de Zidane sur Materazzi, mais ne serait-ce que son coup de tête sur Buffon, ça peut faire une victoire en Coupe du Monde et c'est formidable. Ça démarre formidablement bien. C'est un joueur qui potentiellement veut et peut-être incarner la succession de Zidane. Et puis finalement, patatras. Alors moi, je ne vais pas faire de dichotomie entre le club et l'équipe nationale parce que je pense pour moi que ça fait un seul et même joueur. C'est difficile. On en a eu d'autres qui ont eu des carrières un peu différentes. Evra, Benzema pendant longtemps avec l'équipe de France et le club. Ou un mec comme Cantona, voilà, qui avait une carrière bien plus resplendissante en club qu'en équipe nationale. Et en revanche, je finis sur le même constat que toi, c'est-à-dire que je le mettrais dans le top 20, mais... deuxième partie du top 20, parce qu'au-dessus, je pense que voilà, il est battu par une ribambelle de champions du monde qui ont aussi fait des choses en club. Mais voilà, c'est un bon top 20 qu'aurait dû, normalement, au vu de sa carrière et de son talent, terminer dans un top 10.
Ouais, il faut. Enfin, voilà, ce qui le mène si haut, c'est quand même. Encore une fois, ça a été l'un des plus grands joueurs de l'histoire, d'un des plus grands clubs de l'histoire. Il n'y en a pas eu 50 comme ça. J'ai cité Platini, Henri, Copa, Benzema. J'aurais dû citer aussi, et tu as bien fait, Cantona. Ça le place très, très, très haut. Mais Ribéry, il y a eu trop de coups d'arrêt. Il y a eu trop de déceptions. Il y a eu entre 2006 et, on va dire, 2016 ou 2014 ou 2016, c'est le meilleur joueur de l'histoire des Bleus. De cette séquence des Bleus.
Meilleur joueur des Bleus.
Donc pendant 10 ans. C'est monstrueux, mais ça correspond aussi à une séquence où les Bleus vivent la Coupe du Monde la plus humiliante, qu'il a malgré tout incarné. Même si on a beaucoup parlé d'Anelka à ce moment-là, Ribéry, il incarne aussi Naïsna. Et c'est aussi cette tâche-là, qui est énorme, qui est très grande, qui fait que c'est compliqué de le mettre très très haut. Après, entre 98 et sans doute 2022, donc c'est-à-dire le dernier Ballon d'Or et le prochain Ballon d'Or qui seront français, c'est le seul français à avoir prétendu à la distinction suprême. Tu mets Griezmann aussi en 2018.
Bah oui.
Tu mets Griezmann aussi en 2018. Mais malgré tout, ça se compte sur les doigts d'une main. Donc c'est un immense joueur, mais avec des énormes bas qui l'empêchent d'être tout en haut.
Pour l'anecdote, sa dernière sélection, c'est France-Pays-Bas, c'est la première de Griezmann. Donc il y a aussi symboliquement un passage de témoin entre une décennie qui est très très bien débutée, parce qu'il faut se rappeler de ce qu'est Ribéry, c'est une comète Ribéry, c'est un style bien à lui, c'est des tout droits, c'est une rage dans le dribble, c'est une finesse mais rude en fait Ribéry. Et il incarnait quelque chose avec sa jeunesse, c'était très bien. Et puis à un moment, il a voulu prendre la succession et en fait je pense qu'il n'avait pas les épaules et c'est pas un joueur, je pense que c'est un joueur qui était trop émotif pour ça, par l'absurde, on va dire, j'y viens par l'absurde, peut soulever des montagnes quand ça va très 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 bien et qui, quand ça va très 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 mal, est à la ramasse complète parce que ses émotions, je pense que c'est un joueur entier et qui avait du mal à supporter ça. Or, si on veut être capitaine d'une équipe, il faut être un peu plus dans la nuance entre les deux, notamment l'équipe comme l'équipe de France. Il tombe pas non plus dans la bonne période, parce qu'il faut aussi le reconnaître. Domenech, la période Domenech va un peu pourrir l'atmosphère, mais il en fait partie et il participe aussi à cette dégradation de l'équipe de France. C'est-à-dire qu'avec Gourcuff à la Coupe du Monde 2010, il est dans les histoires. Téléfoot, c'est lui qu'on voit. Enfin, il faut se rappeler quand même que le 20 juin 2010, il vient à Téléfoot, la gorge nouée en claquette, en disant on est en train de souffrir, etc. Alors qu'il est en train de préparer une grève qui va exploser 6 heures après. Donc je ne peux pas croire qu'il n'était pas au courant de ce qui se tramait. Donc il y aura toujours ce rôle un peu ambivalent qui fait que, à la fin, il y a eu plus de respect du public parce que ce qu'il faisait avec l'équipe de France, notamment dans la période entre 2011, Laurent Blanc, et 2014, Deschamps, avant la Coupe du Monde, c'est formidable. Il les porte, il fait des matchs dingues. Mais sauf que c'est des matchs, ça ne va jamais suffisamment loin pour espérer une autre place dans l'histoire.
Après, il y a le regret de cette fin de carrière internationale qui arrive un peu comme un cheveu sur la soupe en 2014. On se dit qu'il... Il commence sa carrière avec une génération championne du monde, 98, avec tous ceux qu'on connaît, Vieira et compagnie. Il termine avec une génération qui va être championne du monde, Griezmann, Pogba, Varane, Lloris, pour ne citer que. Donc il a un trait d'union, mais il n'est ni dans l'une ni dans l'autre. Et il y a ce regret qu'il n'ait pas poussé un tout petit peu sa carrière, mais même jusqu'à l'Euro 2016, qu'il ait raté cette Coupe du Monde 2014 où... Saison 2012-2013, c'est le meilleur joueur du monde, sans doute. On sait qu'il se fait spoiler un ballon d'or par Ronaldo. C'est d'ailleurs le début de la fin, c'est le début de ses ennuis, c'est le début de sa dégringolade. Et il y a ce regret-là de ne pas avoir eu une aventure avec l'équipe de France, sauf 2006, mais...
Il arrive trop tôt.
De ne pas avoir eu cette aventure où il est un des membres essentiels de l'équipe de France. Parce que pendant 10 ans, encore une fois, c'est le fer de lance du football français. C'est la star du football français. C'est le numéro 1. C'est le meilleur bleu. C'est une question de... Ouais, sans doute, tu le disais, d'époque, de moment.
Il peut s'en vouloir aussi.
Oui,
parce que 2010, tous les gars qui ont fait 2010 ont, pour une Coupe du Monde, qui est une chance parfois unique pour des joueurs qui étaient à Naïsna, qui n'ont jamais rejoué de Coupe du Monde. Donc voilà, il peut aussi s'en vouloir. Après, est-ce qu'il y aura une aventure après 2014? Parce que moi, je me souviens de la préparation de 2014. Il est blessé au dos, il ne va pas à la Coupe du Monde. Et Didier Deschamps, c'est assez rare, fait comprendre, même plus que ça, dans les conférences de presse, qu'avant son forfait, que c'est compliqué parce qu'en gros, il est pas en... il grogne, il bougonne parce qu'il a mal au dos. Et Deschamps fait comprendre que dans le groupe, c'est pas forcément évident. Est-ce qu'il y aurait une place après pour lui ? Peut-être, mais j'en suis pas complètement convaincu, parce que Deschamps construisait quelque chose, ce serait l'avènement de Griezmann et tout ça. Voilà, je pense qu'il a été trop émotif et trop entier à des moments, et ça l'a empêché d'avoir la mesure qu'il aurait fallu, et notamment avec Gourcuff et tout cet épisode-là, moment où il veut prendre le pouvoir. Il ne voit pas d'un bon oeil qu'il y ait un joueur comme Gourcuff qui arrive et qui puisse marcher sur ses plates-bandes. Alors que finalement, Ribéry-Gourcuff, si on parle juste d'un point de vue football, bah, ça paraissait complémentaire. Ah
ouais, tout à fait. Donc, pour conclure ce sujet, je dirais entre la 20 et la 15e place, grosso modo.
Ouais, fin 19.
Voilà.
Bah parce que, non, mais c'est pas ça.
Mais t'as déjà tous les champions du monde, t'as les champions d'Europe aussi.
Il y a des joueurs, on avait fait il y a quelques années un top 20 avant qu'ils soient champions du monde, les nouveaux bleus. Des joueurs comme Trezeguet, ça va dans les 15-20. Et aujourd'hui, dans l'histoire
du football, Deschamps, Vieira, De Sailly,
Deschamps
Thuram,
beaucoup plus haut.
Ouais.
Mais voilà, est-ce qu'on va mettre de Ribéry devant Trezeguet dans l'histoire du football français,
Barthez, voilà. Ouais, ouais. Enfin, bon, parmi ceux qui n'ont jamais gagné de titre, il y a Coppa, il y a Benzema, et puis peut-être que Ribéry n'est pas si loin finalement. Parmi ceux qui n'ont rien gagné en équipe de France.
Non, parce que si on finit sur un message quand même positif.
Faut voir d'où il vient.
Ouais, déjà, et que c'est un joueur formidable avec le Bayern. C'est un joueur exceptionnel. Quand il était en forme, qu'il commence à faire des différences, il était intenable. Donc voilà, il manquera quand même cette aventure bleue qui est indispensable à mes yeux.
Enfin, exactement.
Cette aventure quand il était majeur footballistiquement.
Voilà. Oui. Allez, on va passer au deuxième sujet de cette émission et on va parler d'Erling Haaland, qui est la sensation de ce début de saison. On se doutait que ça se passerait bien pour lui en Première Ligue et que son arrivée à Manchester City allait plutôt pas mal se passer. Mais dans ces proportions-là, très honnêtement, c'était difficile d'en anticiper, puisque le bonhomme, on est quand même à 14 buts en 8 matchs de Première Ligue. C'est tout simplement exceptionnel et on va essayer de... On s'est dit qu'on n'avait jamais parlé trop du phénomène Haaland dans le FC Stream Team. Et on va se poser cette question, Maxime. Est-ce que Erling Haaland est un joueur, un buteur unique en son genre?
Alors, j'ai envie de revenir aux proportions, non pas de ses buts, mais proportions du joueur. 1m95, 88 kg. C'est pas totalement nouveau d'avoir des très grands comme ça, mais lui, il dégage quelque chose un peu différent. Les premiers très très grands attaquants qu'on a eus, c'était des joueurs atypiques. Yann Kohler, voilà, c'était en gros, il faisait des déviations de la tête. Il était pas mauvais avec ses pieds, mais on était au quart du talent d'Haaland. Et puis, dans le même style, on a eu Zlatan Ibrahimovic, qui lui, est exactement dans les mêmes proportions, la même taille, 1,95, mais qui a un côté plus délié, plus Marco Van Basten dans le jeu, c'est-à-dire un joueur technique, élastique, capable de faire des genres. Des choses qu'un joueur un peu plus petit fait normalement. Et lui, on a l'impression que c'est un espèce de... On dit un cyborg, mais c'est un peu ça. C'est presque le physique de Ronaldo dans un corps beaucoup plus grand et un joueur qui est beaucoup plus implacable et qui a des qualités de buteur qu'avant avaient les joueurs de plus petite taille, les joueurs de surface. Voilà. Donc là, au moins dans ses proportions, il y a quelque chose d'unique ou au moins de nouveau.
Alors, on parle beaucoup de plein de joueurs de talent dans cette émission et souvent, comme tu viens de le faire, on les raccroche à ce qu'on a vu auparavant. J'ai eu beau chercher, j'ai pas trouvé d'équivalent parfait et même imparfait à Erling Haaland. Alors, déjà en termes statistiques évidemment, mais même surtout en termes de niveau de jeu, de façon de jouer. À qui il me faisait penser, et c'est pour ça qu'unique en son genre, je trouve ça pas mal. Alors, on voit fleurir les comparaisons évidemment sur Twitter par rapport à son début de saison statistique sur Messi, Ronaldo, Mbappé. Pour moi, la comparaison, elle est impossible parce que ces joueurs-là n'avaient pas forcément... Enfin, tous les joueurs de foot ont besoin d'un collectif autour d'eux, mais beaucoup moins qu'Erling Haaland. Je pense que Mbappé peut faire des choses seul, par exemple, pour ne prendre que son exemple, et Messi encore plus, mais aussi Ronaldo, et quand je parle de Ronaldo, je parle du portugais, qu'un Erling Haaland qui a besoin d'un collectif. Et en ça, je trouve que son transfert dans le meilleur, dans ce que je considère en tout cas aujourd'hui, peut-être sans doute, comme les meilleurs collectifs du monde, c'est-à-dire Manchester City, ça va peut-être en faire l'une des machines les plus... dévastatrice qu'on ait pu voir de nos yeux. C'est ce qu'on voit en ce début de saison. Alors, pour avoir un jugement définitif, évidemment, il faudra attendre la fin de saison, voire même un petit peu plus, parce que ces équipes-là, on les juge à l'aune de l'histoire aussi. Mais en tout cas, moi, c'est plutôt ce truc-là que j'ai envie de retenir d'Erling Haaland, c'est-à-dire le finisseur ultime.
Ouais, alors il est dépendant, mais je pense qu'on a l'impression qu'il est dépendant des autres parce qu'il joue à City, c'est-à-dire qu'il y a un jeu autour de lui et que lui, il est vraiment l'arme de destruction massive finale. Parce qu'à Dortmund, tu voyais qu'il était capable de faire des choses un peu tout seul. Mais évidemment, c'est pas comme Mbappé, il y a moins ce côté créateur de, j'allais dire, on parle des fois de créateur de shoot en basket, mais c'est un peu ça.
Et d'ailleurs, mais peut-être moins dépendant, alors si je reviens sur ce que j'ai dit, qu'un Lewandowski ou qu'un pur joueur de surface. Ouais. Disons qu'il est vraiment hybride, il est entre les deux. Et c'est ça pour moi qui le rend assez incroyable et assez unique.
Cette semaine, on a parlé beaucoup d'une personne, un Français qui est amené à briller en NBA.
Je ne sais pas de qui tu veux parler.
Victor Wembanyama.
Ouais.
Et bien, il y a un peu de ça dans l'esprit. C'est-à-dire que, évidemment, les accomplissements d'Haaland sont aujourd'hui plus grands, mais il y a ce côté, on casse les codes. C'est-à-dire que c'est un joueur qui n'a pas le jeu de sa taille et vice-versa. Vous voyez Wembanyama dans ces deux matchs qu'il a joué à Vegas. Il fait 2m21, il shoot à 3 points, il peut dribbler entre les jambes, il peut contrer. En fait, il fait tout un panel de choses qu'on ne voyait pas. Et c'est une évolution qu'a connue notamment le basket. Et peut-être qu'aussi, finalement, on est en train de connaître le foot avec des joueurs qui n'ont pas les dimensions habituelles pour faire certaines choses. Et Haaland, c'est exactement ça. Pour ce qui est de la dépendance, je pense aujourd'hui qu'on a parlé de la pièce finale, la pièce manquante de City. Bah oui, ça ressemble à ça parce que et quand vous entendez Guardiola qui dit et encore, il est pas encore bien intégré dans le jeu. Oui, mais peut-être c'est pas grave et peut-être qu'il ne sera jamais intégré. Mais ce qui est drôle, c'est de voir que City finalement est un collectif hyper huilé, c'est le moins qu'on puisse dire, mais qui peut être huilé finalement à 10 sur le terrain avec ce joueur atypique. On sait que Guardiola a du mal avec les avancantes depuis bien longtemps. Et bah là, finalement, il a trouvé peut-être le contraire de ce qu'il aime entre guillemets naturellement en tant que footballeur. Mais finalement, c'est peut-être ça qui va lui permettre de retrouver les sommets. Et c'est pour ça qu'on a cette impression de dépendance. Parce que là, le but qu'il met contre Manchester, un des trois buts sur le centre de De Bruyne, là, il n'y a pas d'appel. C'est De Bruyne qui crée. C'est fantastique parce que là, il ne voit pas le joueur partir. Non, il crée l'appel et donc lui, il est là à la finition. Il fait le job final. Et c'est là que c'est très fort. C'est-à-dire qu'il va quasiment être servi sur un plateau et son talent fera le reste.
Moi, ce qui me fait peur, j'allais dire. Mais c'est que justement, cette équipe de Manchester City, vous prenez toutes les campagnes de Ligue des Champions ces dernières années, elle se crée un nombre d'occasions incroyables. Et justement, ce qui lui manquait toujours sur cette dernière marche, finale, demi-finale, c'était justement son incapacité à transformer sa domination outrageuse, parfois outrageuse, même quand elle a été éliminée, face à des adversaires moins complets collectivement, mais cette incapacité à transformer cette domination au tableau d'affichage. Et je pense qu'avec Erling Haaland, c'est ce qu'elle est en train de faire depuis le début de saison, en Ligue des Champions et en Première Ligue. Alors, encore une fois, avec tous les... Voilà, il faudra attendre le tableau final de Ligue des Champions. Mais en tout cas, sur ce qu'on voit... Avec Haaland, City est en train de se transformer en monstre. Alors, combien de temps ça durera mais en tout cas, moi, ce que je vois, c'est... Avec Haaland, ce que je vois en ce début de saison, c'est la naissance d'un monstre. Je trouve que ce qui manque encore un peu à Haaland, et on en a parlé aussi un petit peu, pourquoi on n'en a jamais parlé d'Haaland dans cette émission? C'est parce qu'il manque aussi... Tu parlais du côté cyborg. Il manque ce côté... je ne sais pas, une histoire à raconter, quelque chose qui nous raccroche à lui... une identification, quelque chose. Voilà. Moi, c'est ce qui me manque avec lui, c'est le côté un peu froid, glacial, qui fait qu'aujourd'hui, si on veut le comparer à Messi, à Ronaldo ou à Mbappé, il va falloir qu'on s'attache à lui un moment.
Il y a moins de storytelling aussi parce qu'il est norvégien.
Il y avait la storytelling de son papa, Manchester City, retour, le machin. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, mais bon, c'était Manchester City, une équipe en bois à l'époque, il n'y avait pas d'argent et... Papa, c'était pas un talent fou, mais oui, non, mais c'est vrai qu'ils auraient pu appuyer là-dessus parce qu'ils l'ont fait à la présentation du joueur avec la photo où il est assis avec un bon vieux manspreading d'ailleurs sur son canapé gamin et on le voit plus vieux avec le maillot. Ils n'ont pas appuyé là-dessus. Après, c'est toujours aussi c'est Manchester City, c'est que c'est un collectif et finalement ils se font là-dedans. Et ce qui est marrant aujourd'hui, c'est que Manchester City a longtemps été une équipe qui manquait d'un tueur. Mais le but venait de partout. Bah là, finalement, peut-être que le but va venir d'un peu moins partout, mais sauf qu'il y en aura peut-être un peu plus parce que lui, il transporte. Alors, il en est à 14 buts en 8 matchs, il y a eu 3 triplés de suite à domicile en Première Ligue. Il ne faut pas s'énerver, hein. Ça va se calmer.
Mais c'est quand même incroyable, Maxime.
Ah oui, non, mais c'est exceptionnel.
Là où je te coupe, c'est qu'effectivement, bon, il se passe ça, Mais c'est depuis le début de sa carrière que ça se passe comme ça. C'est-à-dire qu'à Salzbourg, moi, je me suis toujours dit, parce qu'on l'a, on l'a vu démarrer il n'y a pas si longtemps, et on s'est toujours dit, bon, Salzbourg, ok, mais bon, ça, Salzbourg, ok. Il a marqué plus de buts en Ligue des Champions que de matchs disputés. Ça arrivait très, très vite, parce que dès le début à Salzbourg, il a mis but sur but. Mais on s'est dit, bon, voilà, c'est le début, c'est machin. Il arrive à Dortmund, on s'est dit, ok, là, ça commence à devenir sérieux, mais... Bon, voilà, ça finira par se calmer. Et on a l'impression, comme un monstre, c'est vraiment ça l'image, c'est que bah, plus il mange, plus il devient gros, et plus, plus il marque. Et voilà, 134 buts en 144 matchs depuis son départ de Norvège. C'est-à-dire que personne n'a ces standards-là à son âge, normalement, à 122 ans, j'allais dire. Non, à 22 ans, personne n'a ces standards-là. C'est-à-dire ni Mbappé, ni Ronaldo, ni Messi, ni personne. Quand tu parlais tout à l'heure de voilà, c'est peut-être le nouveau phénomène, le nouveau football, etc. C'est peut-être ça, peut-être qu'on est devant le nouveau monstre qui va en engendrer d'autres. Mais là, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose avec lui parce qu'il est dans des standards qu'on ne connaissait pas.
Ouais, et ce qui est étonnant, tu disais, il plus nourrit, plus il grandit, bah, c'est qu'il s'adapte en fait. Il s'adapte à son environnement, à son niveau. Là, moi, j'étais très content de le voir arriver en première ligue, plus qu'en Liga, parce que je me disais, bon, en face, ça va être un peu plus relevé. C'est plus relevé, sauf qu'il est largement au niveau. Voilà. Est-ce qu'il battra le record de buts sur une saison en Première Ligue ? C'est possible.
Ce serait dingue quand même.
Ce serait dingue, ah oui, oui. Alors le record, pour savoir, c'est Andy Cole et Shearer qui ont 34 buts à 42 matchs. À l'époque, il y avait 22 équipes. Sinon, c'est Mo Salah, 32 buts, donc il est bien parti. Voilà, mais
très, très
comme l'a rappelé Philippe Auclair lundi dans l'excellente émission Tour d'Europe, à ce moment-là de la saison, Mo Salah n'était qu'à 4 buts. Donc il y a des moments où ça va moins bien, des moments où ça va mieux. Mais c'est vrai que 14 buts en 8 matchs, c'est tout bonnement surréaliste dans le championnat le plus relevé au monde.
On a fait le tour sur Erling Haaland ?
Écoute, je pense bien.
Donc là, prenez votre respiration parce qu'on va quand même descendre d'un cran.
On aurait pu se poser une question qu'on s'était déjà posée ici, c'est-à-dire Mbappé Haaland, si tu dois en choisir un pour monter ton équipe.
Alors, pour les raisons que j'ai évoquées au début, je garderai Mbappé parce qu'il a cette capacité à se... sans doute se créer un peu plus d'occasions tout seul sur ses seules qualités, et il est peut-être un peu moins dépendant du collectif qui l'entoure. Après, si je suis entraîneur de Manchester City, je prends Haaland plutôt que Mbappé parce qu'il y a déjà un collectif autour. Donc voilà, tout dépend de ce que tu veux faire. Je pense quand même, je garde quand même Mbappé. Peut-être que Haaland, à la fin de sa carrière, aura des plus grosses statistiques. Peut-être que voilà. Mais je pense que parmi les deux, alors là, évidemment, c'est pas un jugement écrasant et voilà, mais je garde quand même Mbappé.
Je garde aussi Mbappé, mais si Haaland a des meilleures statistiques en restant, je sais pas s'il restera 10 ans en Première Ligue, chapeau. On verra où Mbappé, mais j'aimerais bien les voir en fait maintenant. Alors je suis pas trop fan des duels.
Oui, mais là c'est intéressant parce qu'ils ont que 2 ans d'écart.
Mais je serais intéressé de le voir. J'aimerais bien voir Mbappé un jour dans le championnat d'Angleterre. Plus que la Liga, si jamais un jour il va au Real. Je pense qu'on en reparlera.
Mais ce qui est intéressant, c'est, bon, on l'a déjà dit 10 fois, mais c'est le crépuscule d'un autre duel de Messi-Ronaldo. Cette saison marque peut-être ce crépuscule-là. Et c'est la première saison d'Haaland en Première Ligue. Je pense que ces deux-là, voilà, on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Mais
la nature n'aime pas le vide.
La nature n'aime pas le vide, exactement. Maxime, merci de finir ce sujet là-dessus.
Il vient d'exploser les esgourdes d'Adrien.
Exactement. On termine cette émission, Maxime ?
Oui.
Parce que là, elle a déjà été très longue.
Alors,
on s'était dit...
Ouais, rendez-vous dans 10 ans ?
On n'a pas beaucoup préparé, machin. Ça va être médiocre. Et je me rends compte qu'en fait, c'est formidable.
Non, mais là, je crois que vraiment, c'est l'effet nouveau micro. Là. Ouais, alors, j'espère, parce que là, je vous dis ça. Ça fait bien 25 minutes d'émission, à peu près. Peut-être que vous êtes déjà parti parce que le son n'est pas bon.
Mais si, le son est excellent. Et on remercie Adrien,
ouais.
Io, chef de la vidéo à Aerosport, et qui... d'une main, on appelle le magicien.
Magicien.
Ouais, le
magicien. On est bien assis.
On est bien.
Il manque peut-être un peu de quoi grignoter.
Ouais, de quoi grignoter. Ce serait sympa. Hein. Ouais, ça ferait un peu de bruit dans le micro. Allez, on va terminer cette émission avec l'OM. Face au Paris Saint-Germain, c'est dans une semaine. Hein,
ouais.
Le match que tout le monde attend en ce début de saison. Pourquoi ? Et bien parce que c'est deux équipes qui vont très très fort. Comme la saison dernière, Paris est premier, Marseille est deuxième. Est-ce que Marseille va pouvoir tenir ce rythme jusqu'à la fin de saison et pourquoi pas contrarier le sacre attendu du Paris Saint-Germain ? Bah, c'est la question qu'on se pose à une semaine donc de PSG-Marseille, alors que Marseille affrontera Ajaccio et que Paris ira à Reims ce week-end. Maxime, je veux ta réponse claire, nette, précise et concise. Est-ce que l'OM peut tenir le rythme du PSG cette saison ?
Bah, comme d'habitude, à chaque fois qu'on pose ce genre de questions, qu'on mette l'OM ou un autre club, J'y réponds par une seule phrase. Ça dépend du PSG, tout simplement. Parce que le PSG est tellement au-dessus que bah, tout dépend de lui. Évidemment, si le club en face fait une bonne saison comme Lille, il y a deux ans, ça aide. Mais il se trouve que si le PSG est en rythme de croisière, ça tient. En revanche, ce qui est vrai, c'est que le PSG est parti très fort d'un niveau comptable et que l'OM suit, d'ailleurs, il n'est pas le seul, il y a Lorient, il y a Lens, ça c'est assez exceptionnel d'ailleurs cette saison, de penser qu'un club comme Lorient est à portée de fusil du Paris Saint-Germain. Est-ce que l'OM peut tenir? Bah, déjà, on va le savoir assez vite, puisque comme tu l'as dit, il y a Marseille-PSG dimanche prochain.
PSG-Marseille.
PSG-Marseille, pardon, dimanche prochain au Parc des Princes. Donc déjà, ça donnera une idée quand même des forces de l'OM. Mais ce qui vient derrière... le PSG aussi, c'est assez compliqué parce que il restera 9 matchs avec dont la Ligue des Champions. Donc si on le sait, on le saura très vite pour l'OM.
Ouais, parce qu'il reste Lens, il reste il reste Lyon, il reste Monaco. Hein. Je crois que tout ça, c'est avant la Coupe du Monde. Ouais. Donc effectivement, la limite du début de saison de l'OM, c'est que pour l'instant, l'OM n'a affronté personne. Que finalement, son plus gros adversaire depuis le début de saison, c'était sans doute Rennes à domicile. Et là. Ils ont laissé échapper des points puisqu'il y a eu un partout au Vélodrome. Malgré tout, est-ce que l'OM peut tenir le rythme du PSG? Moi, j'aurais dit en début de saison non. Et là, je me dis que peut-être. Je me dis que peut-être oui. Pourquoi? Parce que ce que je vois depuis le début de saison, c'est que Marseille est quand même dans l'instant le plus critique de son année. Mmh. C'est-à-dire qu'on est dans un instant où il y a de la Ligue 1 et de la Ligue des Champions. Vous me direz pour le PSG aussi, mais pour Paris, c'est moins problématique. Et Marseille tient le coup. Marseille gagne. En tout cas, les week-ends, en milieu de semaine, c'est un peu moins vrai, mais gagne quand même. Ah, garde quand même une marge. Alors, c'est pas toujours vrai, mais quand même. Et même quand les éléments sont contraires, arrive à forcer le destin. Ce qui me plaît aussi, c'est qu'il y a quand même un groupe, et non pas une équipe, un groupe où les individualités sont presque, évidemment, parce que ce n'est jamais le cas, mais presque interchangeable, que quand Alexis Sanchez est sur le banc, eh ben Luis Suarez peut faire le taf, que quand Payet est sur le banc, bah, ça ne pose pas de problème, qu'on est quand même dans une équipe où le niveau moyen est très haut, où il y a assez peu de déceptions, où on est dans une équipe aussi qui est, à mon sens, plus forte que la saison passée. En tout cas, après, je ne sais plus combien de journées, on a combien, 9 ou 10, je ne sais plus. Après 9 journées, avec des pistons qui vont fort, enfin voilà, je vois assez peu de points faibles sur cette équipe-là. Et surtout, comme je disais, on n'est pas sur une équipe qui est dépendante d'une individualité, comme c'était vraiment le cas les saisons précédentes. Je pense à Payet. Voilà. Donc, je vois beaucoup de raisons d'y croire. Après, évidemment, le PSG reste évidemment au-dessus. Mais pour moi, il y a le PSG, il y a la Ligue 1. Et entre les deux, il y a l'OM.
Il y a un 11 qui commence à se détacher quand même dans cette équipe. Et ce qui est intéressant, c'est que ce 11 qui se détache n'était pas forcément celui qu'on attendait en début de saison. Un joueur comme Under devait partir. Il n'est pas parti. Il n'entrait pas forcément et même pas du tout, on va dire, dans les plans au départ de Tudor. Et il l'a quand même titularisé maintenant. Et dans les trois de devant, il a sa place. Enfin, il n'a pas sa place assurée, mais quand même. Harit, arrivé à la toute fin du mercato. Pareil, il joue. Le milieu de terrain ressemble à quelque chose. Alors, il va vite y avoir un petit problème. En revanche, alors, avec les matchs, ça va être simple. Mais Rongier paraissait indispensable. Mais il y a Veretout aussi. Et maintenant, il y a Guendouzi qui est redescendu d'un cran. Donc voilà. Après, moi, je vais prendre le problème inversé. C'est-à-dire que oui, il y a un côté peut-être interchangeable. Il y a un 11 qui commence à ressembler à quelque chose. Mais j'attends de voir quand même le risque de décrochage des remplaçants. Et notamment deux remplaçants en particulier qui s'appellent Gerson et Payet, même si Payet a gardé un état d'esprit assez favorable, alors, c'est pas trop le cas de Gerson qui fait la tronche dès qu'il sort. Il va falloir vraiment que Tudor soit très bon pour les gérer, parce que à un moment, bah, avoir une équipe type, c'est super, vous avancez, mais quand il y a des blessés, déjà Klose ne jouera pas contre Ajaccio, de voir comment ça va se passer vu les dernières prestations de Klose, de voir aussi le jour où il y aura besoin d'un joueur devant comme un Payet ou un Gerson, comment ça se passera? Moi, j'ai peut-être cette peur un peu du décrochage. Va vraiment falloir que Tudor mette des gants de velours pour gérer ces cas-là.
Bah, pour l'instant, tout ça est étouffé et ne peut pas ressortir parce que ça se passe bien.
Oui.
Donc, effectivement, c'est sur la capacité de rebond et au premier accro. Alors, ça pourra être potentiellement au Parc des Princes.
Même sans accro, avec une blessure, de dire l'entrant, comment il est.
Voilà, il y aura cette capacité à réagir qu'on ne connaît pas encore l'Olympique de Marseille. Mais je trouve que jusqu'ici, en tout cas, ils encaissent le rythme. Et moi, c'était ma principale interrogation. C'était est-ce que cet effectif est capable d'encaisser, avant la Coupe du Monde, ce calendrier absolument dingo avec des matchs tous les trois jours, toutes les semaines? Jusqu'ici, ça tient, avec en plus de la marge encore en Ligue 1. Donc, écoute, moi, Maxime, ouais. En tout cas, après... j'y crois. Autant je pense que Lens, surtout Lorient, sont un bras en sur-régime, ce qui n'est pas illogique. Alors, peut-être que ça tiendra jusqu'à la fin de saison, 4e, 5e place. Autant je pense que Marseille est dans une vitesse de croisière qui fait qu'elle peut être dans le sillage du Paris Saint-Germain un certain temps.
Mais je pense que l'OM est aujourd'hui dans une vitesse de croisière, mais justement, là, ça commence à grimper, et c'est là qu'on va savoir. Mmh. Tu as dit, il y a le PSG, il y a Lyon, il y a Monaco, ouais. Et il y a ce calendrier complètement démentiel. Je crois qu'entre la trêve internationale précédente et la prochaine, c'était 11 matchs. J'ai parlé de 11 matchs, de 9 matchs, mais je crois que j'en ai oublié un ou deux tout à l'heure. Voilà. Et c'est là que ça deviendra intéressant. Si l'OM est sur les talons du PSG avant la Coupe du Monde, c'est après la Coupe du Monde qu'il y aura peut-être un coup à jouer parce que le PSG débambelle l'international partout.
Exactement.
Qui ne va pas pouvoir reprendre le 28 décembre ou le 1er janvier pour les premières journées de post-trêve. Donc peut-être que là, il y aura un coup à jouer pour l'Olympique de Marseille. Et là, on verra que c'est vraiment du sérieux. Mais en tout cas, pour l'instant, sur le début de saison, bah oui, l'OM a fait vraiment ce qu'il fallait, même peut-être au-delà des espérances, je pense.
C'est vrai que si tu restes dans le rétroviseur du PSG jusqu'au début de la Coupe du Monde... Franchement, il y a un vrai coup à jouer en début d'année 2023, voire en fin d'année 2022. Bah voilà, Maxime.
Je crois qu'on l'a dit. Voilà. Tu as conclu ça comme un sujet radio.
Exactement. À vous les studios. Non, alors, si vous n'en avez pas eu assez de Maxime Dupuis sur les ondes, on vous rappelle.
Sur les ondes. Et il s'y croit vraiment avec son micro.
On vous rappelle, bah, le podcast, c'est sur les ondes, quelque part. Voilà. Ça reste quand même un petit peu de la radio. Donc, si vous n'en avez pas assez, Maxime Dupuis, alors, sur le site internet eurosport.fr, où il a brillamment concocté un Franck Ribéry à la des beautés ce matin, alors qu'il était surpris, mais personne n'a été... Enfin, Maxime n'est jamais surpris par l'actualité. Voilà, il la dompte. Voilà, donc si vous n'en avez pas eu assez sur le site internet, si vous n'en avez pas eu assez dans vos oreilles, il vous reste le bouquin. Il vous reste le bouquin à acheter.
Ouais. Si vous n'avez pas eu de Martin, je crois que Martin t'a écrit aussi sur Franck Ribéry aujourd'hui.
Oui, c'est vrai.
Sur un épisode de sa carrière.
Ouais, sur le Ballon d'Or, effectivement, 2013. Mais bon, moi, j'ai pas écrit le bouquin. Donc, de toute façon, non, mais ce qu'il faut faire ce week-end,
ouais.
Ce qu'il faut faire.
D'aller acheter le livre.
Bah oui, bien sûr, il faut aller acheter le livre. Bah évidemment. Vous avez forcément une librairie près de chez vous. Donc vous allez dans la librairie, vous demandez à la dame ou au monsieur Les Grands Récits, édition Amphora, c'est ça, Maxime ? Voilà, vous ferez plaisir à tout le monde. Voilà.
Et puis, 250 pages à peu près. Voilà.
250 pages.
Des très belles illustrations.
Des très belles illustrations. Donc franchement, je ne vois pas de raison de ne pas acheter ce bouquin.
Bah écoute, hein, et si vous ne savez pas quoi faire d'autre.
Si ce n'est que Maxime n'a pas besoin d'argent. Parce que Maxime est.
Alors. Bon, je vais pas me plaindre ici, mais c'est vrai que c'est pas un mot. C'est pas... Écrire un livre ne rapporte pas d'argent. Hormis quand tu t'appelles sûrement Guillaume Musso. Ou
mais
Marc Lévy.
Ça, c'est ton destin, Maxime.
Non, je crois pas. Non.
C'est ton destin. Non, toi, c'est Apollinaire.
Ouais, non, je crois pas. Non,
c'est pas Guillaume Musso. Me parle pas de Musso ou de Lévy. Toi, c'est au-dessus de ça, Maxime. Voilà. Donc, allez-y. Découvrez Maxime, l'auteur avec un grand H. Voilà. Et puis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et surtout, ouais. Critiquez-moi ça sur les plateformes de podcast, de Twitter, tout ça, qu'on reprenne les critiques, des critiques littéraires. Là. On parle de critiques littéraires. Là.
Le masque et la plume.
Voilà, exactement. Et ben, on vous fera ça la semaine prochaine avec nos nouveaux micros, le masque et la plume. Voilà. On a fait le tour, Maxime ?
Ouais, on va remercier quand même Quentin Guichard au visuel. Exactement. Et Adrien Yo au platine.
Exactement. Voilà. Et puis, on se donne rendez-vous à la maison de la radio la semaine prochaine pour un nouveau numéro du FC Stream Team. Ciao, ciao.
Salut.
Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.